Alors, donc, troisième cours. Donc, on est toujours sur le thème général. Donc, on n'est pas encore rentré dans l'analyse sacrement par sacrement, sachant qu'on les fera par groupe, puisqu'on n'aura plus que cinq cours. Donc, on les fera groupés. Donc là, on est encore sur la partie générale. La première fois, on avait vu comment on est passé de l'incarnation au sacrement. Le deuxième cours, on a vu comment... la notion même du sacrement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, etc. Et là, on est sur les sacrements et l'Église. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de l'Église ? Il faut savoir que c'est le thème de l'année, normalement, c'est l'Église. Et donc, on fait les sacrements aussi au travers de l'Église. Et en quoi c'est cœur pour l'Église, en fait. Donc, les temps modernes ont mis en avant la dimension individuelle, privée de la vie de la foi. Et c'est un peu ce qu'on expérimente. On en est beaucoup le fruit à l'heure actuelle. Enfin... même encore aujourd'hui, avec cette dimension très personnelle, une foi privée, on n'en parle pas. La dimension communautaire est un peu mise en berne. Donc on a une dimension purement spirituelle et personnelle des sacrements. Ou alors on est dans une dimension, ça c'est plutôt la version 68, on est dans une dimension très horizontale des sacrements, où ce qu'on essaye de faire, c'est juste se rassembler, faire communauté, faire église, expression qui a eu cours dans un certain nombre d'années. Et qui veut pas dire grand-chose en l'occurrence, si ça veut juste dire de se rassembler autour, par exemple pour la messe, et voilà, d'être ensemble, et donc on fait église, voilà. Donc ça, c'est absolument pas du tout cohérent et pertinent par rapport à ce qu'est l'Église et ce que sont les sacrements. Donc là, l'idée, c'est avec l'Église, en fait, c'est de voir comment on retrouve cette dimension verticale, donc verticale qui est à la fois individuelle, mais aussi collective. Et en fait, c'est à travers l'Église qu'on va étudier ça. Une des phrases clés qui va nous faire tout l'objet de la première partie, c'est une phrase du père de Lubac. C'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. Donc on va creuser cette... Alors, il parle de l'Eucharistie, mais en fait, c'est même pour être élargi à tous les sacrements. Et donc, on va creuser cette phrase-là pour voir comment on redécouvre la dimension ecclésiale des sacrements. Un autre rapport qu'on va avoir à partir de l'analyse de l'Église, ça sera la partie 2, c'est vraiment le double mouvement qui préside à tout sacrement, à la fois qui est culte rendu à Dieu, donc le culte dans une dimension justement du peuple de Dieu, donc bien collective, et puis dans cette dimension de pluie de grâce qui nous vient de Dieu. Voilà, donc ce double mouvement, et on va le regarder dans une deuxième partie. Et puis en dernière partie, on va se pencher sur la dimension missionnaire des sacrements, qui est une des missions premières de l'Église, aller de toutes les nations, faire des disciples. Alors, première partie, donc, c'est l'Église qui fait l'Eucharistie, mais c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. Alors, on va juste creuser un tout petit peu, regarder dans les différents sacrements, qu'est-ce qui est cette dimension communautaire. Donc, on a, au premier temps, communautaire. Donc, en fait, l'administration des sacrements, en fait, n'est jamais une affaire individuelle. Tous les fidèles sont intéressés à un acte de foi sacramentel de l'Église, car celui-ci est une profession publique de la foi. Et en fait, toute profession publique de foi, quand on reçoit un sacrement ou quand on célèbre un sacrement, il y a toujours cette dimension de visibilité et de on montre la foi, en fait, voilà, profession publique de la foi. Alors, c'est évidemment vrai pour l'Eucharistie, puisqu'on est au sein d'une assemblée, mais le baptême d'un enfant, même, est pour la communauté croyante un acte liturgique, un acte communautaire du peuple de Dieu. En fait, le peuple de Dieu est intéressé à la sanctification de celui qui reçoit le sacrement. Ça fait grandir le peuple de Dieu, et quelque part, c'est la communion des saints, on est tous ensemble. Ce dimanche, il y avait un baptême pendant la messe, et je trouve que c'est tellement plus pertinent que de le faire après la messe quand tout le monde est parti. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc il faut vraiment... il y a cette dimension communautaire qui fait que le peuple accueille le nouveau baptisé, et en même temps, le baptisé fait grandir le peuple. Voilà. Et donc, et que quelqu'un qui reçoit un sacrement, ça fait grandir toute la communauté, en fait. La sainteté ecclésiale qui est sacramentalisée, alors je suis désolée, la phrase est un peu compliquée. La sainteté ecclésiale qui est sacramentalisée avec la sainteté du Christ, donc en fait ce qui rend l'Église sainte, c'est le fait qu'il y a le sacrement de la sainteté du Christ qui passe à travers elle, voilà, on va dire comme un sacrement, à travers les sacrements. Et en fait, c'est pas la sainteté de l'Église, c'est pas une entité abstraite, quoi. On n'a pas une Église avec une sorte de. On sait pas trop quoi ce que c'est cette notion, pas du tout. En fait, c'est tous ceux qui appartiennent à l'Église dans la grâce. Donc en fait, l'Église, c'est pas la sainteté, quand on parle de la sainteté de l'Église, c'est pas une sainteté d'une dame ou de je sais pas quoi, je sais pas qui serait l'Église, mais c'est vraiment la sainteté de tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, finalement, dans l'Église, dans la grâce, donc dans l'Esprit Saint. Et donc, il est toujours, il est demandé à la communauté de se joindre par la prière et la supplication en faveur du sujet récepteur du sacrement, s'intégrant ainsi au mystère du culte du Christ céleste. On a ça dans les baptêmes, justement, où on a la litanie des saints juste avant. Voilà, bah c'est bien, ça montre bien exactement ça. Voilà, on demande l'intercession de tous les saints et on fait appel à toute la communauté des saints pour supplier pour le futur baptisé. Et c'est tout à fait, on rend un culte finalement à Dieu. Alors même dans le sacrement de réconciliation, peut-être celui où on a le plus perdu la conscience de la portée communautaire, on a l'impression que c'est notre petite affaire à nous. En fait, la grâce et la rémission des péchés est assurée au pénitent parce que l'Église prie avec le Christ pour le pécheur. Donc l'Église agit déjà en faveur du pénitent avant que celui-ci s'agenouille dans le confessionnal. Et la rémission est accordée parce que le Christ a prié avec l'Église pour l'obtenir. Dans le sacrement même, on a une prière de... Enfin, c'est point culminant, c'est la prière filiale du Christ qui intercède, qui demande au Père de nous accorder le pardon, en fait. Voilà, c'est exactement ça qui se passe dans le sacrement lui-même. Et puis, il y a la phrase, voilà, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et donc, il y a vraiment cette dimension ecclésiale qui est pertinente sur la... même dans le sacrement de réconciliation. Et c'est aussi pour ça qu'on a les soirées pénitentielles, voilà, où il ne s'agit pas de faire du sacrement de la réconciliation communautaire, ce n'est pas ça le sujet, mais on est pris, on prie les psaumes, on prie ensemble, et ça nous prépare pour aller au confessionnal. Voilà. Et après, on revient et on rend grâce pour le... et on fait pénitence s'il y a lieu, mais voilà, et on rend grâce pour le sacrement reçu, et ça, on le fait dans une dimension aussi communautaire. Donc, c'est tout à fait pertinent. Alors, je vous ai mis quelque chose, la nouvelle traduction liturgique. Je ne sais pas si vous avez le petit papier là qui explique depuis... donc, ça fait 2 semaines, même pas, de dimanche. Et donc, on a... j'ai noté notamment sur la... C'est une des phrases qui a le plus changé dans la préparation des dons. « Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. » Et puis une autre phrase, c'est dans le même moment pour la préparation des dons. « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. » Donc on a vraiment cette dimension de... Voilà, c'est toute l'Église qui s'offre et qui rend un culte finalement à Dieu. Donc c'est le prêtre, mais c'est tout le peuple qui est là aussi. Et c'est toute la dimension d'ailleurs de l'offertoire. Donc l'Église est née en même temps que les sacrements à la Pentecôte. On pourrait même dire que les sacrements sont antérieurs à l'Église, finalement, car elle naît des sacrements. Les sacrements ont une vraie conséquence ecclésiale. D'abord parce que le baptême, c'est ça qui fait exister l'Église. Sans baptiser, il n'y a pas d'Église, en fait, visible en tout cas. Et donc, ils la font grandir par les sacrements, par exemple, de la confirmation ou s'organiser par les sacrements de l'ordre. Voilà, donc on a vraiment cette dimension, l'Eucharistie, qui renforce aussi l'union des croyants. Donc on a vraiment ces conséquences ecclésiales qui sont en fait liées à ce que le sacrement unit intimement au Christ l'humanité, que le péché a blessé l'individu, mais aussi le corps ecclésial. Et c'est aussi toute la solidarité qu'on a avec le péché originel. Hein. Adam a péché et on en paye les pots cassés, même si on contribue aussi, je pense, malheureusement. Et donc, il y a quelque chose dans le pardon qui est aussi, qui s'adresse à ce corps, à cet ensemble, qui est la communauté, et notamment avec l'amour des frères dans la foi. Alors, en fait, dans cette vision communautaire, en fait, l'Église, elle est le prolongement du Christ. Donc le Fils de Dieu est devenu réellement homme, c'est-à-dire un esprit humain qui habite de façon visible dans notre monde par une corporéité qui lui est propre. Donc on a vraiment un Dieu qui prend un corps, non pas comme une enveloppe qui jette après, mais comme vraiment son être, donc un homme-Dieu. L'incarnation de la vie divine inclut des aspects corporels, évidemment. Tout rapport interhumain, tout contact des hommes entre eux s'accomplit par l'intermédiaire de la corporéité. Et on sait très bien que toutes nos relations, elles passent par notre corps. si je vous parle là maintenant, c'est parce que j'ai une bouche, que j'ai des cordes vocales et que du coup le son peut arriver jusqu'à vous et que vous avez des oreilles pour entendre. Voilà, c'est le toucher, c'est on entre en relation avec l'autre. Donc toute notre relation avec les autres sont forcément passe par notre corps, qui est le véhicule de cette relation. Voilà. Et donc quand le Christ après l'ascension, en fait, il a conservé quelque part, il rend sa présence active de grâce visible et palpable parmi nous. Alors, pas directement avec son corps, c'est-à-dire qu'on n'a plus accès à son corps, c'est ce qu'il dit à Marie-Madeleine, ne me tiens pas, il faut que je remonte vers le Père. Mais par contre, il nous donne accès par les sacrements, et qui sont comme un prolongement terrestre de son corps céleste. Voilà. Donc, à travers ça, il vient nous rejoindre dans notre corporéité, et on le rejoint dans sa corporéité. On a adoré tout à l'heure l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Donc, on est bien dans cette relation qui passe par un corps. Voilà. Alors, d'accord que l'hostie, c'est pas toujours simple de savoir. On verra probablement mieux au ciel. Enfin, en tout cas, j'en suis sûre. Mais voilà, il y a quand même voilà, le regard se pose sur quelque chose. On a ce passage par le corps. Et en fait, ce prolongement terrestre, c'est les sacrements, mais c'est aussi concrètement l'Église. C'est ce qui fait l'Église, en fait. Cette relation qu'on a entre nous et qui crée cette Église, ce peuple de Dieu, c'est ces relations qui sont tissées par l'amour de Dieu et qui s'opèrent concrètement. Voilà. L'incarnation, elle n'a pas été juste pour un temps donné. Elle est toujours actuelle dans le prolongement sacramentel. Donc Dieu est resté fidèle à sa pédagogie de salut dans le respect de notre nature humaine. Il nous propose toujours le royaume des cieux dans un habit terrestre. Il prolonge cette pédagogie dans l'Église sacramentelle, organe visible du Seigneur vivant sur la terre. C'est un petit rappel j'avais dû vous le dire l'année dernière, mais après l'ascension, en fait, il y a un corps en Dieu, puisque le Christ, il est monté avec son corps, glorieux certes, mais il est monté avec son corps, donc il y a un corps en Dieu. Et donc, du coup, toute la pédagogie après l'ascension, elle reste à travers un corps. Parce que ce qu'on est appelé à vivre dans le royaume, c'est aussi cette relation avec le corps du Christ glorieux. Et donc, il y a toujours cette relation. On n'est pas passé dans un autre monde. Et même si le royaume des cieux est différent de la terre maintenant, il garde fidèle, finalement, il respecte ce qu'il a créé, c'est-à-dire un être humain qui est un corps, âme, esprit. Donc, l'essence de l'Église consiste en ce que la grâce finale du Christ est rendue présente historiquement et visiblement dans toute l'Église comme société visible. Les sacrements signifient le don divin du salut dans et par une forme extérieurement saisissable, constatable, qui concrétise ce don. Un don de salut en visibilité historique. Dans le sacrement de réconciliation, c'est très intéressant. On peut se dire, on peut prier et Dieu et il nous accorde le pardon. Donc, je n'ai pas besoin d'aller au confessionnal. Mais en fait, le prêtre, quand il dit le pardon à la place du Christ, il nous donne ce côté constatable. Voilà, il y a quelque chose qui est extérieur à moi, qui n'est pas juste j'affabule et je prends mes désirs pour des réalités. Il y a une objectivation par cette parole dite par le prêtre pour le compte du Christ. Donc l'Église, elle a un réel pouvoir sur les sacrements, puisque c'est elle qui en est le ministre, enfin c'est elle qui en est le dépositaire quelque part, mais finalement, elle est dans un cadre très strict. Elle respecte les intentions de Jésus-Christ. Et donc, plus que l'histoire, c'est ce qu'on avait vu dans le premier cours, plus que de dire Jésus, on fait exactement comme il a fait. Non, c'est l'intention du Christ qu'on essaye de faire. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des évolutions dans les sacrements, parce qu'il y a la lumière de la tradition et l'esprit qui anime l'Église, qui fait que qu'il y a des choses qui se découvrent, qui s'affinent, qui se développent dans le temps, même si finalement ça reste toujours, et on le verra notamment, parce que peut-être qu'un des sacrements qui a le plus évolué, c'est le sacrement de la réconciliation. Et du coup, mariage un petit peu, mais le sacrement de la réconciliation, et du coup on verra comment il reste fidèle aux intentions du Christ et à l'origine, même si dans ses modalités, il a un peu évolué. Alors ce que cette Église prolongement du Christ, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est sainte. Elle est sainte et on ne doit pas dissocier le côté visible. C'est une institution hiérarchique. Il y a une visibilité même dans le bâtiment, dans le fait qu'il y a des prêtres, des évêques, que c'est organisé, c'est une société organisée. Mais en même temps, c'est aussi une réalité spirituelle. Qui est la communion des saints. Donc en fait, le Christ a trouvé un moyen pour que nous formions son corps, et son corps donc visible et spirituel, Les sacrements et l'Eucharistie, éminemment, évidemment, sont surtout l'Eucharistie, mais tous les sacrements sont vraiment ce moyen pour que le Christ fasse de l'Église son corps, en fait. Alors, juste un petit mot sur le corps mystique qui a été employé auparavant pour, en fait, tout au début de la tradition, il désignait l'Eucharistie, très précisément. Donc, c'était vraiment l'Eucharistie dont on parlait quand on parlait du corps mystique. Et maintenant, en fait, on a élargi ce terme, qui peut désigner l'Eucharistie, mais ce n'est pas celui qu'on emploie couramment, mais il désigne plus largement la communion des saints, l'Église. Donc, il a été élargi à toute l'Église. Donc, c'est intéressant, on est parti du cœur, l'Eucharistie, pour désigner le corps du Christ, et puis ça s'est étendu comme pour réaliser en fait que c'était tout le peuple de Dieu qui est le corps du Christ, le corps mystique. Et puis confère Saint Paul avec toutes les thématiques autour du corps. Donc là, je vous reprends il ne s'agit pas dans les sacrements de faire église au sens de se constituer une assemblée humaine. Il ne s'agit pas non plus d'une église purement spirituelle des incarnés. Donc si l'Église est le corps du Christ, et si le Christ est son Seigneur, elle est de même nature que lui. Donc elle est à la fois humaine et divine. Et le mystère de l'Église consiste donc dans sa double nature, humaine et divine à la fois, analogue à la double nature de son Seigneur, car elle est le témoin permanent du Christ, la messagère du Dieu vivant. Et par cette identité objective entre le Christ et l'Église, qui est en fait que la vie du Christ, c'est la vie de l'Église, et c'est pour ça que le sacrement de l'Eucharistie est particulièrement important, il y a cette vraie identité de nature qui est à la fois la distance de l'humanité par rapport à Dieu et en même temps, comme le Christ s'est fait homme, Dieu, bah, du coup, il est aussi de notre côté. Donc, en fait, on a cette identité, comme si le Christ, par son incarnation, mais dans ses sacrements, en fait, aujourd'hui, abolit la distance entre Dieu et son peuple. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de l'Église avec une inhérence divine, excusez-moi pour le terme, qui est aussi sainte. Et c'est pour ça aussi, c'est une extension, mais on dit que le pape, quand il promulgue un dogme, infaillible, merci. Donc il y a quelque chose de la tradition de l'Église, par cet exemple-là, mais toute la tradition de l'Église qui ne se trompe pas. Voilà. Parce qu'elle est le corps du Christ qui est habité par l'Esprit Saint et qui permet qu'elle ne dise pas de bêtises. Voilà. Et au passage, c'est quand même assez incroyable que l'Église, en 2000 ans, ne s'est jamais déjugée sur un dogme, une position, etc. Et même les papes qui étaient les plus... pas complètement sains, on va dire, dans leur vie privée, et ben ils n'ont pas dit de bêtises. Voilà. Enfin, ils n'ont pas promulgué de bêtises. On en a peut-être dit en privé, mais ça, c'est pas très grave. Mais ils n'ont pas promulgué de bêtises. Et ça, c'est quand même... s'il y a bien une manifestation que l'Église, elle est sainte, je trouve que ça en est une preuve flagrante.
Oui, c'est peut-être bon de rappeler aujourd'hui, en ce moment, la limite de l'infaillibilité pontificale, parce que malheureusement, beaucoup de personnes... considère que n'importe quel propos fait partie de l'infaillibilité.
C'est très juste.
Nous, on le reçoit en pleine figure. Mmh.
C'est clair que l'infaillibilité, elle est dans un cadre. Elle est très encadrée, en fait.
Et ça, les gens ne le savent pas.
Mais vous avez raison, il faut le rappeler. Tout à fait. C'est pas à tout moment et c'est pas en tant que personne, c'est justement quand il parle au nom de l'Église. Donc c'est pour ça que c'est encadré. Il y a une introduction pour dire ça. Dans quel cadre il le fait. Et alors la double nature de l'Église, elle se manifeste aussi dans sa structure. Donc elle a à la fois la mère qui appelle, qui communique sa vie dans les sacrements, donc comme une maman qui fait grandir les gens, qui essaye de les remettre dans le droit chemin, etc. Et puis elle enseigne, elle sanctifie, elle est gouvernante. Elle est à la fois représentée par les clercs, c'est ceux qui convoquent à l'assemblée, et le peuple assemblée, congrégatio. Elle est sanctifiée par le Saint-Esprit et la communion des saints. Excusez-moi, il y a un mot qui n'a rien à faire là. Voilà. Ah si, elle est sanctifiée par le Saint-Esprit et enseignée par le Saint-Esprit. Oui, c'est un peu ambigu, donc la phrase est bizarrement tournée. Donc c'est vraiment comme une pièce à double face, quoi. On ne peut pas séparer le côté visible, le côté humain, le côté institution humaine de l'Église et le côté saint, mystique, corps mystique du Seigneur. Et en fait, l'Église, c'est quand elle sépare les deux qu'elle n'est plus à sa place, en fait. Et donc, elle est les deux, et les deux ensemble. Et on ne doit pas rêver ni d'une Église spirituelle en disant, bah tant pis pour celle qui est là, ni d'une Église visible en disant, oui, mais la spirituelle, on verra plus tard, parce que c'est maintenant ce dont tu as besoin. Ben non, c'est les deux, en fait. Et c'est cette association, cet amalgame, cette double face, cette double nature, qui a l'image du Christ, qui est la vraie réalité de l'Église, et qui est éminemment... sensible et démontré au moment des sacrements, où on a des choses très concrètes avec du pain, avec une bénédiction, avec de l'huile, avec des choses très très concrètes, et en même temps il y a tout ce déploiement mystique de Dieu qui vient en nous. Donc elle est une réalité mystérieuse qui transcende toujours tous ceux qui lui appartiennent. Donc elle est quasiment, en fait, elle est au-delà de la somme des individus, parce qu'elle est aussi, il y a Saint-Esprit qui vient lui donner une puissance supplémentaire et qu'il vient de partout. Elle s'actualise et se localise dans leur groupement, mais elle n'est pas fragmentée ni multipliée par eux, car elle est toujours plus qu'ils ne sont dans leur réalité empirique. Donc on ne peut pas mettre la main sur l'Église comme on ne met pas la main sur le Christ. Voilà. Et donc on n'en est que ses humbles serviteurs et une pierre de l'édifice, dans le sens réel et dans le sens mystique. Les clercs auxquels le Christ confère sa puissance de gouverner, d'enseigner, de sanctifier l'Église célèbrent l'Eucharistie, symbole de l'unité physique et spirituelle de l'Église, garantie de son identification mystique avec le Christ. Et dans cette perspective, une Église invisible, spirituelle seulement, sans hiérarchie, est inconcevable, et une Église opaque qui sera un intermédiaire entre nous et le Christ n'est pas plus recevable. Nous sommes l'Église quand nous établissons la relation à Dieu et que nous laissons le Saint-Esprit habiter en nous, en fait. En nous, individuellement et collectivement. L'Église, c'est la somme des baptisés vivants de leur baptême. C'est le peuple de Dieu qui accepte et qui reçoit la grâce. La grâce n'est pas séparée de la nature, le spirituel est partout mêlé en temporel. L'Église est indissociablement humaine et divine, comme les sacrements eux-mêmes, geste réellement humain, mais tout aussi réellement action divine du Christ. Je pense que ça vaut vraiment le coup quand on est... qu'on va avoir un... assiste ou qu'on reçoit un sacrement, de vraiment se poser là-dessus, quoi. Se dire que c'est vraiment... finalement, c'est le moment où notre nature humaine, elle est embrasée par le Saint-Esprit et donc elle devient... elle est déifiée. C'est déjà un début de ce qu'on sera appelé à avoir dans le royaume des dieux. Alors, on n'en a en général pas du tout conscience, mais c'est intéressant de se dire, avant d'aller à un sacrement ou autre, de prendre conscience de ça, quoi. De cette immensité de la chose, en fait. Et de le faire avec ses frères qui sont là. Alors, deuxième partie, le double mouvement des sacrements à l'image du Christ. Alors, dans les sacrements, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit des choses assez variées selon les sacrements. On voit deux types d'éléments. D'un côté, une épiclèse sous forme de prière, et de l'autre côté, un don indicatif, c'est-à-dire un ordre, enfin... Dans la plupart des cas, parce que la liturgie a mis en avant un des aspects, ou parce que les phrases ont été... parfois, on n'a pas tout le déploiement liturgique qui conviendrait. On voit qu'un seul des deux éléments. Donc ainsi, quand on voit pour le baptême, on entend juste le prêtre qui dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Donc là, il agit comme le Christ et on est dans le don indicatif. C'est le Christ qui agit en puissance et qui a l'action et qui... quelque part, donne le baptême, en fait. Voilà. Le sacrement de la réconciliation, on est dans le même cas de figure. Je vous pardonne tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on est aussi dans cette position où le prêtre agit à la place du Christ et dit une parole que le Christ pourrait dire. Et qui est donc le don de ce qu'il donne. Alors que quand on voit les ordinations sacerdotales, et c'est pareil dans la diaconale qu'on va voir juste après, l'évêque, en fait, il implore Dieu. Père Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Et pour l'ordination diaconale, regarde maintenant, Dieu très bon, celui à qui nous imposons les mains aujourd'hui, nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur l'Esprit-Saint. Par lui, qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Et dans l'onction des malades, on a aussi cette même... invocation, par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit-Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Donc on a deux façons de voir les choses, en fait. Soit c'est à la place du Christ, et du coup c'est le Christ qui agit et qui donne le, le sacrement qui donne le don en fait, soit c'est on invoque pour que Dieu agisse et donne le don. Voilà. Mais dans les deux cas, le prêtre ou l'évêque fait quand même tous les gestes qu'il faut et donc il participe. Donc en fait, il agit, même si dans la parole, on met en avant un ou l'autre des aspects. Je vous ai mis les textes de la prière eucharistique numéro 3 où on a les deux mouvements. D'un côté, on dit « C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. » Et après, la nuit même où il fut livré, c'est dans le chaînement, « La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il te bénit, le rompit, le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez dans tous. » Donc on a là les deux aspects. C'est probablement le plus complet, c'est là où il y a le plus de déploiement, c'est dans l'Eucharistie. Donc on a les deux mouvements dans les sacrements. D'un côté, le culte rendu à Dieu, avec cette prière, cette épiclèse, cette invocation que Dieu intervienne et agisse dans notre monde. Et puis, les actes par lesquels nous... Et Dieu qui nous fortifie, nous nourrit, nous pardonne, nous fait fils. Donc, il y a toute l'action de Dieu en nous. Donc, les deux mouvements, c'est d'un côté l'homme qui, à la place du Christ, loue Dieu, et rend gloire à Dieu pour ce qu'il est et pour les dons qu'il accorde. Et de l'autre côté, le Dieu qui intervient et qui nous donne directement ses dons. Voilà. Alors, ses dons, quels qu'ils soient. En fait, on retrouve exactement ça dans le Christ. Donc, évidemment, les sacrements sont... Voilà, on continue l'idée de ce que c'est que le Christ. Et donc, ce double mouvement, c'est exactement celui où le Christ est à la fois la visibilité de l'amour divin que le Christ porte aux hommes et de l'amour humain qu'il porte à Dieu. Donc le Christ est l'homme qui se tient devant Dieu et rend audible pour Dieu cette prière par la perfection de ce mouvement de l'homme vers Dieu et en même temps Dieu qui vient consoler, fortifier notre cœur, nous rendre fixes, etc. Donc le Christ est en lui-même l'orant, celui qui adore, et celui qui prie, et celui qui donne les dons de Dieu. Ces deux mouvements sont concentrés dans l'incarnation et la rédemption. Je suis sortie du Père et je suis venue dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Donc, on a les deux mouvements, alors là, qui sont un mouvement descendant et montant. Et dans l'incarnation, on peut voir les deux choses. D'un côté, c'est Dieu qui se penche vers nous, il se fait homme, donc il vient nous donner son don, qui est le Christ, qui est le plus beau don qu'on puisse faire. Donc, d'un côté à ça. Et en même temps, l'incarnation, c'est aussi Jésus qui, du coup, comme il se met du côté de l'homme, il peut prier son Père et finalement restaurer ce culte, le culte vrai à Dieu. Voilà. Et dans la rédemption, on a pareil, on a l'oblation de Jésus-Christ à son Père, et donc on a un culte rendu au Père. Et en même temps, par la résurrection et l'envoi de l'Esprit, en fait, on a la grâce de Dieu qui vient sur nous. Voilà. Donc vraiment les deux mouvements. Toute la vie humaine du Christ est amour obéissant au Père. Sa vie humaine est l'expression religieuse de son attachement malgré tout, malgré la mort, à la volonté sainte du Père et donc un culte au Père. Dans sa vie humaine, prototype de la nôtre, il donne réellement à Dieu sa place. Il affirme par son abandon la supériorité de Dieu sur l'homme. Donc il est dans une juste position en tant qu'homme par rapport à Dieu, en reconnaissant son Créateur et Dieu Tout-Puissant. Et par la résurrection, la rédemption objective est devenue réalité et nous sommes tous rachetés dans le Christ notre chef. L'humanité est réellement délivrée et reçoit une vie nouvelle d'enfant de Dieu, appelé à être déifié. Alors je vous ai mis un passage sur la résurrection de Lazare, où c'est intéressant parce que donc Jésus arrive près du tombeau et il commence par rendre grâce au Père, comme si lui-même ne pouvait pas rendre la vie. Donc en fait, Jésus lève les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé ». Alors il anticipe aussi un peu, mais en fait, il demande au Père d'agir et de finalement. Et juste après, il agit avec l'autorité, comme celui qui a tout pouvoir. Après cela, il crie d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Voilà. Alors on pourrait penser que c'est contradictoire. Pourquoi il invoque le Père s'il a le pouvoir? Pourquoi après il agit alors qu'il a invoqué le Père? Mais en fait, c'est exactement l'attitude juste du Christ, qui à la fois tout pouvoir, et c'est ce qu'on a médité à l'adoration, tout pouvoir lui a été remis par le Père. Et en même temps, c'est le Fils obéissant de toute éternité qui s'en remet au Père et qui manifeste le fait qu'il est le Fils obéissant. Voilà. Et donc, il manifeste pour tous ceux qui étaient là autour. Et donc, c'est cette obéissance filiale parfaite qui lui permet finalement d'exercer ce pouvoir. Parce qu'il ne la prend pas pour lui-même, mais pour la rendre au Père, ce pouvoir. Pour le Christ, commander et prier, c'est la même chose. Commander au sens ordonné. Alors l'Église est représentante du Christ, l'épouse du Christ, donc elle est la fille du Père, culte suprême du Père et en même temps celle qui a été constituée en puissance au jour de la Pentecôte. Elle transmet l'Esprit qu'elle reçoit elle-même en continuant la prière du Christ. Donc elle a le double mouvement dans l'Église, comme nous l'avons vu dans le Christ, comme nous l'avons vu dans les sacrements. Elle est manifestation ou forme d'apparition visible, historique de l'amour même de Dieu pour les hommes dans le Christ. Et en même temps, elle est l'amour à elle, l'amour pour Dieu, au service de Dieu, dans le même Seigneur, au culte. Elle est l'épouse que le Christ est acquise, pleine de grâce. Elle est pour les hommes qui l'approchent, offre de grâce, et pour ceux qui s'ouvrent à elle, don de grâce. Ainsi, l'Église est communauté de sanctification et communauté de culte. Et en fait, elle est sainte dans la mesure où justement elle rend le culte à Dieu. Sinon, elle s'approprie finalement les dons de Dieu et donc elle n'en fera rien du tout. Dans les sacrements, il s'agit d'une rencontre du Christ dans son Église. Et donc, tout sacrement a un double résultat. Un résultat par rapport à l'Église visible, qui fait grandir l'Église. Il la rend plus forte, plus sainte, même si c'est un sacrement pour un seul membre. Et elle a un résultat par rapport au Christ et à Dieu, puisque c'est un effet, un culte rendu à Dieu, et donc il y a un effet de grâce qui déborde. Voilà. Et donc on a toujours ça dans le sacrement. Donc quand on reçoit un sacrement, c'est pour nous, mais c'est pour toute l'Église. Confère, prière eucharistique. Toute la messe incarne ce double mouvement qui embarque tout le peuple de Dieu rassemblé pour chanter la gloire de Dieu. Et tout le mouvement de la messe, il faudrait suivre le cours de Guillaume, mais tout le mouvement de la messe, c'est ça. On a à la fois, on rend gloire à Dieu, on offre le sacrifice d'action de grâce, et de, par ailleurs, on reçoit la parole, la communion, et on reçoit par la parole et la communion à l'Eucharistie, les dons de Dieu et le Saint-Esprit. Et même dans la communion, on a ce double mouvement, puisque notre Amen reconnaît, finalement, il acquiesce sur le fait qu'on reçoit tout de Dieu, et donc c'est un culte rendu à Dieu par cet Amen, et la mendication qui diffuse l'Esprit en nous. Les sacrements sont comme une médiation entre le Christ et nous, et sont moins le lien entre le sacrifice historiquement passé par la croix et notre monde du XXIe siècle. On a une vision assez parfois protestante des choses. On commémore. En fait, ce qui se passe au moment de l'Eucharistie, par exemple, c'est un lien direct avec le Christ maintenant vivant au ciel et notre monde humain. Donc on a une rencontre immédiate entre le Christ vivant et l'Église. Et les sacrements sont cette rencontre même. C'est le point d'incandescence de cette rencontre. Alors, troisième partie. On avance. Et sacrements pour la mission. Alors, tous les sacrements ont un lien fort avec la mission. Donc, on va les regarder de différentes manières. Les trois sacrements à caractère, donc baptême, confirmation, ordination, sont explicitement des sacrements de mission. En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Église et le niveau d'instruction de sa foi, est un sujet actif de l'évangélisation. Evangelii Gaudium. Donc, voilà, on n'attend pas d'être expert en théologie. Pour faire de l'évangélisation, on peut y aller parce qu'on est baptisé. Ça n'empêche pas de se former. Voilà, vous êtes les bienvenus. Par la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit-Saint et obligés ainsi, plus strictement, à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Lumen Gentium. C'est explicitement la confirmation et le sacrement de la mission. L'ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ à ses apôtres continue à être exercée dans l'Église jusqu'à la fin des temps. Il est donc le sacrement du ministère apostolique. Catéchisme de l'Église catholique. Si je reprends d'une autre façon les sacrements, en prenant les sacrements d'initiation chrétienne, donc le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, en fait, ils fondent la vocation commune de tous les disciples du Christ, vocation à la sainteté et à la mission d'évangéliser le monde. C'est aussi pour ça qu'à la fin de la messe, on a le « aller dans la paix du Christ » et normalement « agissez, répondez, enfin, voilà, parlez du Christ ». Deux sacrements, l'ordre et le mariage, sont ordonnés au salut d'autrui. Ils contribuent également au salut personnel, c'est à travers le service des autres qu'ils le font. Ils confèrent une mission particulière dans l'Église et servent à l'édification du peuple de Dieu. Donc c'est une autre façon de regarder ces deux sacrements ensemble, qui sont des sacrements qui sont pour les autres, en fait. Enfin, la formule d'envoi du sacrement de réconciliation est missionnaire. C'est une des formules. Allez en paix et annoncez à travers le monde les merveilles de Dieu qui vous a sauvés. Je ne suis pas très sûre de l'avoir déjà entendu en fait en confession. Je me suis dit, j'ai préparé le cours et je ne me suis pas confessée depuis, mais je me suis dit que la prochaine fois, j'allais faire attention à quelle prière on avait. J'ai lu tout un texte sur, je lirai après ça, mais j'ai lu tout un texte sur justement les prières pour le sacrement de réconciliation. Il y en a des très belles en fait. Je pense qu'on n'en a pas la moitié du temps, tout ça, mais voilà. En tout cas, celle-là, je trouve qu'elle est magnifique. Allez en paix, ça c'est vrai, et annoncez à travers le monde les merveilles de Dieu qui vous a sauvé. Et là, on sent bien qu'on est envoyé par l'Église et qu'il faut y aller. Donc l'Église, et pourquoi elle est missionnaire? C'est parce qu'elle est le lieu des œuvres du Saint-Esprit. Donc on en a déjà parlé, on va approfondir un petit peu. C'est à l'Église, en effet, qu'a été confié le don de Dieu, afin que tous les membres de l'Église puissent y avoir part et par là être vivifiés. Qu'est-ce qui fait que l'Église est le corps du Christ? Qu'est-ce qui fait qu'elle est vivante, au sens vivifiante, enfin qui est vraiment en mouvement, qui est pleine de vie, et pour la vie éternelle? C'est en elle qu'a été déposée la communion avec le Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, art du don de l'incorruptibilité. Donc ça, c'est l'idée que par le Saint-Esprit, on a... parce que le Saint-Esprit habite en nous, on a la vie éternelle, et donc on est promis à la résurrection de la chair, par le salut du Christ, mais qui nous est donné concrètement par l'Esprit Saint aujourd'hui. Confirmation de notre foi. Donc l'Esprit Saint, il nous fait grandir notre foi. Il nous donne la foi pour pouvoir recevoir les sacrements. Et après, on a le fruit. On va le voir un tout petit peu après. Et échelle de notre ascension vers Dieu. Car là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église. Et toute grâce. Et l'Esprit est vérité. C'est pourquoi ceux qui s'excluent de lui ne se nourrissent pas non plus aux mamelles de leur mère. Là, c'est l'idée, c'est l'Église. Pour recevoir la vie, et non point à la source limpide, et non point part à la source limpide qui coule du corps du Christ. Saint Irénée. Donc c'est l'idée que c'est auprès de notre mère l'Église qu'on reçoit la vie, c'est-à-dire le salut qui nous est donné avec la vie en plénitude, la grâce en plénitude qui est le Saint-Esprit en fait. Voilà. Et donc si nous ne recevons pas et si nous ne nous abreuvons pas à cette source, eh ben, nous ne grandissons pas dans la foi et voilà, il ne va pas nous aider pour aller au ciel. L'Esprit Saint prépare au sacrement par la parole de Dieu. Alors là, on a beaucoup l'esprit, c'est aussi le lien entre... Donc là, on retourne sur une dimension un peu liturgique et un peu autour des sacrements. C'est que tous les sacrements, même quel que soit le sacrement, en fait, il est préparé par une lecture de la parole ou une proclamation de la parole de Dieu. Même un mariage où il n'y a pas de messe, où il y a une bénédiction, il y a quand même la parole de Dieu. Avant le sacrement de la réconciliation, il est préférable de lire, s'il y a quelques psaumes qui ne sont pas inintéressants à lire juste avant, ou la parabole de l'enfant prodigue, ou voilà, donc voilà, nourrir de sa parole, parce que par la parole, le Christ est aussi le Verbe de Dieu, et la parole faite chair, et donc par l'Esprit Saint nous habite et nous prépare quelque part, nous fait grandir notre foi pour nous adresser au Christ, et donc recevoir le sacrement. Et le Saint-Esprit n'agit pas seul non plus, car ce que l'Esprit fait, il le reçoit du Père par le Fils. Et en fait, dans tous les sacrements, on voit que si la partie... la partie visible du sacrement, c'est le Saint-Esprit. Non, la partie invisible, mais qui nous touche plus directement, c'est le Saint-Esprit. Mais finalement, il est celui qui nous transmet le Christ, puisque c'est ça qui nous fait devenir le corps du Christ. Et en même temps, c'est toujours l'action du Père pour nous conduire au Père. Donc en fait, dans les sacrements... c'est toute la Trinité qui a l'œuvre. C'est toujours la Trinité qui vient parce que c'est elle qui se penche et qui accomplit finalement le dessein de Dieu. Alors, je vous ai mis un petit texte de monsieur, un nom imprononçable, Schilbeck, qui est un prêtre catholique néerlandais, de son l'abondance de consonnes, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Christ, sacrement de la rencontre de Dieu », que le père Giton m'a gentiment prêté. Et je vous ai mis cette petite parabole, on va dire, que je trouve très pertinente et très éclairante. La présence visible et efficace de la grâce du Christ dans l'Église et dans le monde nous fait penser au cercle concentrique de l'eau dans lequel on a jeté une pierre. Les vagues se déploient dans toutes les directions à partir d'un seul point. Excusez-moi pour le M qui n'a rien à faire là. Dans toutes les directions à partir d'un seul point. L'Église constitue le point central de la présence du Christ sur terre par une grâce visible, et de ce point, partent tous les développements ultérieurs. Dans ce centre se trouve l'Eucharistie, le foyer même de la présence réelle du Christ parmi nous. De ce foyer partent les premiers rayons lumineux, les 6 autres sacrements. La prédication de l'Église nous dévoile ce mystère central. Éclairé par ce sacrement de la prédication, nous voyons ensuite comment une large sacramentalité se déploie dans toutes les directions. Donc comme si on avait... Pierre, c'est le Christ, une pierre angulaire, ça tombe bien. Voilà, et l'Église, qui est cette moment où il y a l'impact dans l'eau, voilà, on pourrait dire, et que c'est le Christ qui se rend présent aujourd'hui. Et de l'Église, c'est l'Eucharistie qui est le cœur de l'Église, comme Pascal est le corps du Christ. Et il y a les rayons comme les sacrements qui sont ce qui diffuse avec le plus de richesse, le Christ, l'Esprit Saint. Et après, ça se continue avec des sacramentaux. Là, quand on parle des sacramentaux, c'est les autres gestes comme les bénédictions, comme dire un chapelet, comme voilà, qui sont d'autres thématiques, mais qui ne sont pas des sacrements, mais qui nous font aussi grandir dans la foi, pour irriguer la réalité du monde humain. Donc, dans le Christ, Dieu dirige tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Pardon. Dans la vie chrétienne, même des fidèles, la grâce nous devient visible. Les vagues sacramentelles s'étendent plus loin encore, mais de façon moins prononcée et en s'affaiblissant progressivement dans les sacramentaux, dans la réalité du monde humain. Donc, comme s'il y avait une sorte de... Voilà, c'est l'expansion de l'Église. Mais plus on est près du cœur, plus on a toutes les vagues, en fait. Voilà, toutes les vagues de l'Esprit Saint. Dans le Christ, Dieu dirige tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Le sacrement est une réalité terrestre et visible dont le Seigneur se sert pour opérer dans les hommes une orientation existentielle vers Dieu dans le Christ Jésus. Ainsi, la grâce du Christ ne nous atteint pas seulement de l'intérieur, elle nous approche visiblement, conséquence permanente de l'incarnation du Fils de Dieu. Par l'incarnation du Fils, le monde est assumé dans la relation personnelle de Dieu à l'homme et de l'homme à Dieu. En union avec la grâce intérieure, tout le monde créé devient une grâce extérieure, une offre de grâce sous forme sacramentelle. Donc il y a aussi la réalité visible de l'Église et des sacrements, qui est visible même pour des non-baptisés, pour ceux qui ne sont pas encore dans le peuple de Dieu, au sens de l'Église. Et donc il y a déjà cette forme d'incarnation, voilà, dans l'Église, que Dieu est présent, et que la grâce qui est de l'intérieur aussi, et il ne faut pas nier, c'est très important, elle devient aussi grâce extérieure, justement par cette visibilité, par les sacrements. Voilà. Et donc elle peut nouer des liens visibles. Je trouvais la parabole très jolie, et puis très parlante surtout. Alors, en conclusion, en lui vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. C'est un passage de Éphésiens qui ne parle pas directement des sacrements, mais qui est en fait exactement ce qui se passe dans les sacrements. L'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage. Par les sacrements, on a une avance sur la vie éternelle et le royaume de Dieu. Et donc cette avance, elle est parce qu'effectivement, c'est marqué par l'Esprit Saint, mais c'est bien les sacrements qui nous font... grandir et avancer ça. Et c'est éminemment ce qui se passe dans l'Eucharistie, où on contemple Dieu, ce qu'on fera dans le royaume, même si pour l'instant on contemple sous l'apparence du pain. Tout ce qu'on peut affirmer de l'Église, on peut aussi pour l'essentiel l'affirmer de la Vierge, car de l'une à l'autre c'est un constant échange d'attributs, c'est une pénétration mutuelle autorisant une certaine communication des idiomes. C'est-à-dire que c'est l'un, ce qui est valable pour l'Église est aussi valable pour Marie. Une phrase du cardinal de Lubac. Marie n'est pas seulement le premier membre de l'Église, mais en un sens, l'Église lui appartient, tandis que le Christ la dirige. Et du coup, je trouvais intéressant de se dire, en ce temps de l'Avent, d'apprendre de Marie, de vivre des sacrements, avec à la fois ce double mouvement de culte rendu à Dieu et de grâce reçue de Dieu. Et Marie l'a éminemment dit dans le Fiat, voilà, qu'il soit fait selon ta parole, que tout se passe pour moi selon la volonté de Dieu, finalement. Et donc, c'est un culte rendu à Dieu. Et en même temps, elle méditait les paroles de Dieu et elle vivait de cette grâce. Et elle l'a reçue et elle l'a portée autour d'elle. Voilà. Et elle est notre mère. On parle souvent de la mère de l'Église, mais la mère Marie aussi. Donc, en fait, il y a bien cette identité des deux. Parce que dans les deux cas, on a une... Quelque part, on accède au Christ. C'est pas que Marie, c'est médiatrice, mais elle nous apprend comment prier et comment vivre des grâces reçues de Dieu. Voilà. Et puis, prier aussi Marie pour que les fruits soient non seulement pour chacun d'entre nous, mais pour tout le peuple de Dieu qui est l'Église et pour la gloire de Dieu. Et puis, en s'étant troublé, je dirais particulièrement pour l'Église de Paris. Mmh. Enfin, et de France, mais...
J'ai besoin d'une aide.